tant. Ce qu'on est, je n'appartiens pas à la famille Sutter, mon origine d'enfance, ni à la famille Razanajwari, je suis. Ça change tout. Alors donc Joël Razanajwari, j'ai la chance d'avoir 60 ans cette année. Ouais, je suis super contente. Non, c'est vrai, hein, rigolez pas, c'est sérieux. J'ai la chance d'avoir 60 ans et d'être encore en bonne santé, en forme, ce qui fait que je peux bénéficier du dynamisme des jeunes et de la sagesse des vieux. Quelle grâce, merci Seigneur. Donc, pasteur de la Fédération, j'ai exercé mon ministère dans un deuxième temps de vie professionnelle, après avoir été enseignante de français langue étrangère sur Marseille. Donc, j'étais un petit peu voisine pendant 16 ans, à l'église baptiste de paix aujourd'hui. Salut Myriam ! Salut William ! C'était des potes à l'église baptiste de Marseille paix aujourd'hui. C'est super de vous voir, je suis ravie. Petit coup de nostalgie là. Ça y est, j'ai perdu mon fil. Oui, 16 ans à Marseille, donc. Et puis ensuite, j'ai fait une formation de théologie à Aix-en-Provence, d'où est sorti Norbert aussi, une excellente faculté de théologie. Et puis ensuite, je suis devenue pasteur à l'église baptiste d'Annecy pendant une décennie. Ensuite, à l'église baptiste de Metz, et j'ai été invitée par le Conseil national en 2019 à prendre la suite du pasteur Marc Dereux au secrétariat général de la Fédération baptiste. Voilà, donc une trajectoire assez particulière. Mais le Seigneur aime les trajectoires particulières. Donc, il est le Dieu des deuxièmes vies, le Dieu des deuxièmes chances, des troisièmes, des quatrièmes. Donc, il n'y a jamais rien de perdu. Pour chacun d'entre vous, il y a une œuvre pour vous à accomplir. Encore aujourd'hui, que vous ayez 30, 40, 20, 50, 60, 70, 80. Est-ce que vous croyez qu'à 80 ans, vous avez encore des choses à faire pour l'Église, pour la société et pour le Seigneur? Il y en a qui ont 80 ans, là? Wouhou! Yes. Bon, c'est pas mon sujet du jour. La Fédération des Églises évangéliques baptistes, dont vous êtes une partie du corps à 100 ans. Waouh, 100 ans. Que l'on penche pour un anniversaire en 2011 ou en 2021, puisque la structure a évolué, eh bien c'est déjà une belle, une longue histoire, la vôtre, la nôtre, d'autant plus que cette histoire plonge ses racines au XVIe siècle. Hein, vous le savez, les églises baptistes ont commencé sous une autre forme qu'on appelait anabaptiste à l'époque des grandes réformes. Il y avait trois familles à l'époque, la famille qui est devenue la famille réformée, la famille qui est devenue la famille luthérienne et la famille anabaptiste qui est née quelques décennies après Calvin Luther et dont toutes les églises évangéliques sont issues en France. Donc nous avons soit un siècle, soit quatre. Voilà. Mais quand on y regarde un petit peu plus près, on se rend compte que le paysage français actuel regorge d'églises évangéliques. L'histoire ne s'est pas arrêtée en 1921, lorsque la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France a pris sa structure et sa forme actuelle. Alors si je vous demandais, quelle est votre différence en tant qu'église baptiste avec l'église pentecôtiste du coin? Ou avec l'église, qu'est-ce qu'il y a dans le coin comme église? Église réformée évangélique, voilà, l'UNEPREF, ou bien l'Union des églises évangéliques libres, on est passé devant le temple hier, ou bien peut-être encore ces églises réseaux, il y en a plein aujourd'hui, les réseaux apostoliques, Salt and Light, Destiny, Four Squatters, etc., etc. Il y en a des tonnes et des tonnes. Mais qu'est-ce qui vous définit, vous, en tant qu'église baptiste? Interrogation écrite, vous avez 2 heures. Ça, c'est les restes du prof de français. Eh bien, je parie que peu d'entre vous sauraient définir ce que vous êtes. Et c'est un problème. Pourquoi ? Pourquoi c'est un problème ? Parce qu'aujourd'hui, il y a multitude de voix autour de nous. Les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier ce qui existait déjà. Qui cherchent à vous dire ce que vous êtes. Tantôt, c'est l'un qui va avoir une prégnance dans vos cœurs, dans vos histoires, dans vos engagements. Tantôt, c'est l'autre, parce que dans l'autre groupe, il va y avoir quelqu'un avec une aura, un charisme humain ou spirituel plus fort que celui qui avait parlé avant et que vous avez entraîné. Et à force de basculer, tiens, ça me rappelle un verset biblique, non pas d'un vent de doctrine à l'autre, mais d'un vent de charisme ou d'expérience ou de projet différent, eh bien vous entraîne et vous flottez. Et au bout d'un moment, vous ne savez plus ni qui vous êtes, ni où vous allez. Alors c'est toujours important, et notre souhait en tant que Conseil national, en tant que secrétaire général, je représente le Conseil national, vos élus, eh bien nous voulons mettre l'accent sur notre histoire, sur qui nous sommes. Parce que Dieu a mis dans le passé, dans les décennies passées, dans la Fédération Baptiste, des hommes et des femmes qui ont œuvré, qui ont discerné les temps de Dieu, qui ont construit des projets, qui ont reçu des visions, imprimé des directions. Et nous devons en tenir compte. C'est de notre responsabilité d'être les successeurs de ces hommes et de ces femmes, d'entendre ce que le Seigneur leur a dit et de poursuivre cette œuvre-là. Et non pas l'œuvre que le Seigneur a donnée à une autre famille d'église, même si elle est super intéressante. Alors qu'est-ce que Dieu a donné à la Fédération Baptiste ? Là encore, je ne vous demanderai pas de répondre, je vais vous fournir les réponses. Comme ça, vous êtes cool. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fédération ? Vous savez qu'à côté de nous, il y a une association baptiste, Association des Églises Évangéliques Baptistes de Langue Française, AEEBLF. Association baptiste, qui a 100 ans, qui est née en même temps que nous, en 1921, d'une séparation de ce qu'on appelait à l'époque l'Union baptiste. J'en ai parlé hier un petit peu plus longuement, je vais brosser le tableau d'une façon extrêmement rapide aujourd'hui. Mais si vous souhaitez aller plus loin, je vous engage à lire le livre de Sébastien Fatt qui fait 995 pages. Mais vous n'êtes pas obligé de lire les 995 pages, vous pouvez lire les 200 pages, donc vous voyez c'est beaucoup plus court, qui concernent l'histoire du baptisme en France depuis 1850 à 1920. Vous avez dans cette série de décennies-là, toute l'histoire de ce que vous êtes et de comment Dieu a construit, a amené à l'existence la Fédération Baptiste. Donc je vous renvoie à ce livre, Une autre manière d'être chrétien en France. C'est la thèse de doctorat de Sébastien Fatt. Mais ces 200 pages-là sont lisibles, même si vous n'avez pas de thèse de doctorat, j'en ai pas non plus. Donc tout va très bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fédération plutôt qu'une association baptiste ou plutôt que l'Union des Églises évangéliques libres ? Alors, être une fédération, vous avez ça dans le préambule des statuts de la FEB. Je vous invite à les lire et Norbert, si tu les as, bascule-les sur tout le monde. Lisez ce préambule. Ce préambule fait état d'une association d'églises dans lesquelles chaque église locale est souveraine. Ah, ça on aime. Je fais ce que je veux chez moi. Personne n'a rien à me dire et surtout pas les Parisiens. Vous connaissez ça ? Moi aussi, hein, ça c'est profondément humain. Mais ces églises autonomes et souveraines ont besoin des autres. dans plusieurs domaines. Un besoin de rapprochement fraternel, un besoin de collaboration, un besoin d'entraide. Parce que si chaque église locale est autonome et souveraine en son sein pour discerner la volonté de Dieu à son sujet, il y a des sujets et des lieux dans lesquels aucune église ne peut se suffire à elle-même. Et à cause de cela, parce que nous n'avons pas seulement à chanter « J'ai besoin de toi, Seigneur », mais nous avons aussi à chanter « J'ai besoin de toi, mon frère, ma sœur ». À cause de cela, les églises de la Fédération Baptiste s'organisent en fédération. Chacune des églises fédérées, là je suis en train de lire le préambule, chacune des églises fédérées, conserve la gestion de toutes ses affaires intérieures, de son culte particulier, de son budget, de ses immeubles et de ses œuvres d'évangélisation. Wouhou ! Ça, c'est le côté positif. Le côté qu'on aime bien, moins vient tout de suite. Elle s'engage, c'est volontaire. Et vous, vous êtes engagé dans les années 80 à être fédéré. Elle s'engage néanmoins à participer, dans la mesure de ses moyens, aux œuvres communes fondées ou reconnues par la Fédération, en particulier la mission intérieure baptiste et les œuvres ayant pour but l'évangélisation, l'éducation de la jeunesse et la préparation des pasteurs au ministère. Une fédération d'églises, c'est donc un rassemblement d'organismes, des églises en l'occurrence, à la fois semblables et différentes, qui se structurent ensemble pour construire et promouvoir des œuvres communes. Cette promotion d'œuvres communes est aisée, facile, lorsque les éléments rassemblés sont assez semblables. Vous me voyez arriver là, hein ? Mais plus compliqué lorsqu'il y a des différences entre elles. Or, l'acceptation des différences fait partie de l'ADN de la Fédération Baptiste. En 1921, c'est là-dessus qu'un groupe d'églises a décidé de se séparer de l'Union Baptiste qui était nationale à l'époque, en disant « Nous voulons construire nos vies d'église » sur une orthodoxie, en fait, ce que nous, en tant d'Église, déclarons être orthodoxe. Un autre groupe d'Église a dit, nous pouvons vivre ensemble en séparant les choses essentielles dans lesquelles nous souhaitons qu'il y ait un accord fort, des choses secondaires, dans lesquelles nous acceptons qu'il y ait une diversité de positions théologiques. Le tout, évidemment, étant vécu dans une atmosphère d'amour et de respect. Vous savez, ça, c'est un grand fondement depuis plusieurs millénaires, puisqu'on rapporte cela comme étant quelque chose mis en place par le grand Augustin. Accord sur l'essentiel. Diversité dans les choses secondaires, amour en toutes choses. Et c'est sur cette base-là que dans les années 50, lorsque le grand vent charismatique a soufflé sur la France, les deux frères Jules et André Taubois, dont l'un avait été saisi par le Saint-Esprit, il était pasteur du Point du Jour, ces deux frères ont décidé que l'irruption de l'esprit dans la vie de la fédération n'allait pas être source de division. Et ils ont écrit ce texte dans les années 50, je crois que c'était en 1952, ce que nous croyons tous au sujet du Saint-Esprit. Et ce texte continue à nous servir de base pour vivre ensemble, même des églises avec des expressions non charismatiques et des églises avec des expressions charismatiques. Même chose dans les années 80, lorsque Louis Schweitzer a initié le comité mixte de dialogue baptiste catholique. Certaines églises étaient extrêmement frileuses pour aller discuter avec les catholiques en disant « rien de bon ne peut venir de Rome hein ». un peu à la manière de celui qui a dit dans les évangiles, rien de bon ne peut venir de Nazareth. Tiens donc, du très bon est venu de Nazareth. Et encore une fois, lorsque, à l'orée de l'an 2000, suite à un vœu du Congrès, eh bien, le Conseil national a été invité à réfléchir sur la place et le rôle des femmes. Est-il possible de donner un ministère d'autorité, c'est-à-dire un ministère d'ancien ou de pasteur, à une femme? S'en est suivi des consultations, la rédaction de documents qui vous ont été envoyés à vous en tant qu'Église. Ils ont été réfléchis en Église et ensuite le vote a été organisé en Congrès, qui est l'organisme de direction de notre fédération. Et évidemment, vous connaissez la suite, les femmes ont pu avoir accès officiellement à des titres de pasteur. Beaucoup de femmes exerçaient des ministères pastoraux dans les églises baptistes, mais sans avoir la reconnaissance, avec beaucoup d'hypocrisie finalement. Mais là, depuis ce jour-là, donc depuis 2006, des femmes accèdent officiellement au ministère d'anciens reconnus dans les églises et au ministère de pasteur. Et je suis l'une d'entre elles, puisque je suis entrée dans le ministère pastoral en 2008. Alors vous voyez que dans notre famille d'église, eh bien, il y a beaucoup de différences. C'est un souci. Parce que comme je l'ai dit, quand on est charismatique ou non charismatique, eh bien, on ne va pas définir l'essentiel de la même manière. C'est beaucoup plus facile d'avoir des liens fraternels avec des églises qui sont nos jumeaux. Et si en plus ce sont des vrais jumeaux monozygotes, ça va encore mieux, n'est-ce pas ? C'est mon clone, je me sens en sécurité avec lui. Mais nous avons décidé, et pour moi, je le dis, je le répète, c'est une grâce, c'est un projet de Dieu. Est-ce que vous le croyez, ça? Moi, j'en suis profondément convaincue. C'est un projet de Dieu qui, aujourd'hui, prend une dimension d'autant plus importante que toute notre société, mais aussi la grande majorité des églises évangéliques, va dans l'autre sens. Quelle union d'églises accepte en son sein des églises d'expression charismatique et des églises d'expression non charismatique? Cherchez. Quelle église accepte des femmes pasteurs? Quelle fédération accepte des églises qui disent oui au ministère pastoral féminin et des églises qui disent non au ministère pastoral féminin? Cherchez. Je l'ai fait. Je n'en ai pas trouvé. C'est un peu finalement l'une des caractéristiques majeures de notre société. Si vous pensez comme moi, si vous croyez comme moi, si vous vivez comme moi, vous êtes mes amis. On clique, amis, on s'abonne au fil d'actu et on ne voit que finalement des clones, des miroirs de ce que je suis. Ah, mais c'est facile de vivre la foi chrétienne comme ça. Ha ! Jamais rien ne va venir vous perturber. Mais notre fédération, depuis sa naissance et son ADN, a fait le choix divin. Apocalypse 7, verset 9. Il y avait au pied du trône une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et quand on sait ce que la langue construit comme concepts mentaux, comme structuration intérieure, eh bien on peut se dire que le Seigneur quand même à imaginer quelque chose de totalement unique. Rendez-vous compte qu'il y a des langues qui ont 20 mots pour dire neige. 20. Il y a la neige qui tombe. C'est une langue du Québec arctique. Il y a la neige qui tombe, canique. La neige sur le sol. Apouti. Bon, moi, c'est neige. Hein. La neige cristalline sur le sol. Poukak. Aniou, c'est la neige qui sert à faire de l'eau. Sikou, c'est la glace en général. Nilak, glace d'eau douce. Kinou, glace bouillie au bord de mer, etc., etc. Vous imaginez la culture de ces gens. Eh bien, à côté d'une personne issue de ce peuple-là, il va y avoir un Saharien qui ne sait même pas ce que c'est le mot neige. Voilà le projet de Dieu. Pour moi, la Fédération Baptiste, dans cette richesse de diversité, assumée, représente quelque chose de ce qui va nous arriver quand nous serons au pied du trône de la gloire. Sauf que ça pose un tas de problèmes. Parce qu'on peut vivre dans la fédération, puisqu'on est autonome et souverain, en étant comme dans une bulle. Alors on donne nos participations fédératives. Puis d'ailleurs, ça sert à quoi les participations fédératives ? Ah mince, ça fait un trou dans le budget, ça. Les participations fédératives, c'est loin Paris. Un secrétaire général, il faut payer un secrétaire général. Ça sert à quoi un secrétaire général ? Bon encore, l'assistante du secrétaire général, Rebecca Kukemi, dont tout le monde à la Fédération Baptiste a entendu parler, elle, on veut bien, on comprend, parce que quand on a un problème, on l'appelle et ça répond tout de suite. Mais pour le reste, combien d'entre vous savent à quoi ça sert vos participations fédératives ? Parce que quand on voit en plus l'église à côté qui n'est même pas charismatique, qui ne chante pas en langue. Non mais excusez-moi, hein, avant que je creuse un petit peu le sujet Fédération Baptiste, je pensais comme ça. Donc je suis certaine qu'un grand nombre d'entre vous, excusez-moi, pensent comme ça. Et je pense qu'on a le droit de le dire, qu'on pense comme ça. Et c'est même une très bonne chose. Arrêtons la langue de bois dans les églises, mince alors. Si vous ne savez pas à quoi servent vos participations fédératives, vous allez voir Norbert, vous allez voir le conseil de direction et vous lui dites, mais pétard de zut, les je ne sais pas combien de centaines d'euros qu'on dépense, ça pourrait peut-être servir à autre chose, non ? Et alors Norbert va vous expliquer que le... Non, je crois qu'il est en train de se dire, j'aurais mieux fait de ne pas la faire venir. À quoi ça sert vos participations fédératives ? Eh bien, ça sert à mettre de l'huile dans tout ce fonctionnement dont nous avons parlé tout à l'heure, les œuvres communes. Effectivement, ça sert à salarier, un directeur de la formation, dont vous avez certainement entendu parler ces derniers temps, parce qu'il va devenir le prochain président du CNEF, tout en restant directeur de la formation à la Fédération Baptiste. Ça sert à quoi un directeur de la formation ? Ça sert à organiser l'école pastorale, qui est unique en France. Ça sert à superviser la rédaction des cahiers de l'école pastorale, c'est unique en France. Cette volonté d'avoir des ministères bien formés, qui soient capables de creuser la Bible et qui soient en même temps attachés aux réalités du terrain. Ça sert à ça, vos participations fédératives. Ça sert aussi à payer Rebecca, à me payer moi. Alors quel est le rôle d'un secrétaire général ? Allez-y, je vous écoute. Je m'amuse. Hein. Un secrétaire général travaille à la cohésion des églises. À faire mieux connaître la fédération, à répondre aux besoins en cas de conflit. Si par exemple, un jour, Norbert, ferme tes oreilles, je vais encore parler de toi. Si par exemple, un jour, le pasteur déraille, le conseil d'église fait appel au secrétaire général qui vient visiter, qui vient faire un travail de médiation. Et j'en ai beaucoup des églises comme ça. Croyez-moi, j'en ai beaucoup. Qui font appel à moi et je viens visiter, écouter le conseil, écouter le pasteur, écouter la communauté, essayer de régler le conflit, voir où ça pour mettre l'huile de l'esprit là-dedans et faire redémarrer la communauté. Ensuite, un secrétaire général, ça sert aussi à vous représenter face au président de l'Union des Églises évangéliques libres qui m'appelle et qui me dit « Eh oh, il y a ton église là-bas qui débloque complètement. Hein, faut que tu fasses quelque chose, Joël. Hein, ça va plus. Hein. Entre notre église locale et ton église locale, bah, y a des gros soucis. » Et je me déplace sur le terrain. Ça sert à vous représenter dans la Fédération protestante de France. Je suis au conseil d'administration de la Fédération protestante de France et je vous représente. Ça sert à suivre les différents comités, départements, l'Union des femmes baptistes, la mission intérieure baptiste, la commission des ministères. Je fais le lien entre toutes les œuvres communes de la Fédération. Pour qu'il n'y en ait pas deux qui décident en même temps de faire la même chose. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Un groupe de maison d'une église qui dit « Ah, moi, je propose qu'on fasse un projet d'évangélisation. » Et puis, il y a l'autre groupe de maison qui a exactement le même projet et les deux viennent voir le pasteur et le pasteur dit « Mais enfin, mince, mettez-vous ensemble. Ça ira beaucoup mieux, beaucoup plus vite. » Donc, je fais le lien entre tous les comités, tous les départements pour qu'il y ait de la cohésion à tous les niveaux, au niveau des églises, au niveau des départements. Ça sert à tout ça. Vos participations fédératives, ça sert à organiser le congrès. C'est quoi le congrès ? Le congrès, c'est un lieu qui vous appartient aussi pour que vous décidiez, dans le congrès, à travers vos délégués, de l'avenir de la Fédération Baptiste. Ça sert à organiser les pastorales. Les participations fédératives servent à organiser les pastorales pour qu'il y ait un lieu pour les bergers. Parce que ce n'est pas facile d'être pasteur d'une église aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un lieu où ils puissent décharger tout ce qu'ils ont sur la patate. Voilà, ça sert à tout ça. Et le secrétaire général, il est au centre de tout ça. C'est le pivot qui met de l'huile un petit peu dans tout ça. Alors, du coup, je me suis un peu perdue. Là, je vous ai parlé de notre fonctionnement. Et donc, vous voyez comment c'est complexe, la Fédération Baptiste. Il y a les niveaux locaux. Quelles sont les églises Fédération Baptiste les plus proches d'entre de vous ? On va essayer de ne pas faire parler le pasteur. Norbert, chut. Alès. La Combe des Oiseaux. Il y a une église baptiste à la Combe des Oiseaux ? Ah, c'est pas la fédération, c'est l'association. Est-ce que ça veut dire que ce ne sont pas nos frères et sœurs ? Bien sûr que oui. Ce sont des frères et sœurs. Nous sommes au service du même Seigneur, à travailler pour le même royaume, mais d'une manière différente. Vous l'avez compris maintenant. Donc effectivement, les églises baptistes, fédérations baptistes les plus proches, c'est Alès, ensuite Marseille, Aix. Il n'y a pas d'église baptiste à Montpellier. J'ai entendu Montpellier là, quelque part. Il n'y a pas d'église baptiste à Montpellier. D'église fédération baptiste, hein. Et si vous connaissez un petit peu toutes ces églises baptistes qui sont dans le coin, vous voyez bien les différences et la difficulté qu'il peut y avoir à travailler avec des églises qui sont différentes. C'est un enjeu extraordinaire, fabuleux, comme je le dis, parce que c'est un enjeu qui relève de la manière dont Dieu veut se révéler au monde. C'est un lieu prophétique du trône de la grâce dans le monde. Alors ça veut dire qu'il faut qu'on travaille tous ensemble à harmoniser nos compréhensions, nos convictions. Ah, me direz-vous, stop Joël, Romains 14, 23. Tout ce qui ne relève pas d'une conviction est péché. Moi, je n'ai pas la conviction que je dois travailler, que je dois forcément vivre une fraternité, une relation fraternelle avec cette église baptiste, cette église fédération baptiste-là. Parce que c'est une église non charismatique, alors que nous, on est une église charismatique. C'est une église qui accepte le ministère pastoral féminin alors que nous, on ne l'accepte pas. J'invente, là, je ne sais absolument pas votre positionnement par rapport au ministère féminin, donc j'invente. C'est une église qui est pro-catholicisme, d'ailleurs, ils travaillent vachement avec l'évêque du coin. Et nous, voilà. Donc, regroupons-nous avec les églises avec lesquelles on se sent bien, comme ça, nous ne pécherons pas. Romains 14, 23. c'est une distorsion de la compréhension de ce texte biblique. C'est une mécompréhension de ce que l'apôtre Paul ici signifiait lorsqu'il parlait de conviction. Il y a bien sûr à la base de chacune de nos vies des convictions théologiques. Je prends un exemple. Dieu a créé les êtres humains à son image, vérité théologique intemporelle fondée sur les Écritures, Genèse 1, 26. C'est une conviction, n'est-ce pas ? Oui ? J'ai eu peur là. C'est une conviction confessionnelle, de l'ordre de la confession de foi, que tout chrétien devrait partager. Quelques chapitres plus loin, dans Genèse 9, au verset 5 et 6, c'est une vérité qui débouche sur un impératif moral qui interdit de tuer un autre être humain parce que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Cet impératif, voyez, on passe d'une conviction confessionnelle, de l'ordre de la confession de foi, à un impératif moral. Beaucoup de personnes vont dire, cet impératif moral, c'est ma conviction. Mais à cet impératif moral vont s'ajouter un certain nombre de valeurs. Et puis on va tomber dans « je suis pro-vie ». Je prends un exemple. Je prends l'exemple de cette thématique-là. J'aurais pu en prendre une autre, un petit peu plus chère peut-être à votre cœur de Nîmois, la tauromachie. Mais je ne vais pas me risquer à ça. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Je suis passée autour des arènes. Voilà. Je vais rester pro-vie. On s'oppose à l'avortement parce que voilà, il y a cette valeur accordée à la vie humaine, l'impératif moral qui est derrière et encore derrière la croyance confessionnelle. Je suis pro-vie. Et pourtant, chers frères et sœurs, un jour, écoutez-moi bien, peut-être que je vais vous choquer, j'ai dit à une jeune femme, tu as le droit d'avorter. Je lui ai dit entre quatre yeux, tu as le droit d'avorter. C'est ton droit. Elle a ouvert des grands yeux, elle m'a dit, mais tu es pasteur. Je lui ai dit, oui, mais ça n'empêche, tu as le droit légal en France et le droit humain. Mais je suis contre l'avortement. Alors je lui ai dit, je te propose que nous réfléchissions en deux temps. Eh oui, parce que quand on a une personne en détresse profonde et réelle devant soi, lui dire juste un impératif moral, « t'as pas le droit !» ça sert strictement à rien. Donc je lui ai dit, on va faire le pour et le contre, si tu avortes, positif, négatif. Et on va faire le pour et le contre, si tu le gardes, ce bébé. Allons-y, 2 heures dans la voiture. 2 heures à décrypter. Et elle me dit, ma mère m'insulte, elle ne m'accompagnera pas si je décide d'avorter. Qu'est-ce que je fais ? Je ne veux pas y aller toute seule, j'ai trop peur. Je lui ai dit, si tu décides d'avorter, même si je suis contre, je viendrai avec toi. Et je suis pro-vie. Je crois fondamentalement que ça aurait été une erreur profonde, mais je lui ai dit, je viens avec toi parce qu'après l'avortement, je te ramasserai à la petite cuillère, mais je serai là pour toi. Et si tu décides de le garder, je serai là pour toi aussi. Et je lui ai dit, maintenant tu rentres chez toi, tu pries. Elle n'était pas vraiment chrétienne, elle était sur le chemin. Je lui ai dit, maintenant tu rentres chez toi. Et ce Dieu que tu es en train de chercher, tu lui parles, tu cries à lui, tu lui demandes. Et vous savez quoi? Vous devinez, rien qu'à mon sourire, elle l'a gardé. Je l'ai baptisé, je l'ai marié avec le papa du petit garçon. Elle a 2 enfants. Et elle va très bien. Je prie pour qu'en tant que chrétien, nous comprenions la différence qu'il y a entre ces choses que j'ai citées, les convictions confessionnelles, ensuite les impératifs moraux, et ensuite les valeurs qui conduisent à une éthique de vie. Tant qu'on ne fait pas cette dissociation entre ces différents éléments, on va bassiner des ordres, il faut que, et on va se couper de nos frères et sœurs, on va se couper des gens de la société qui ont tellement besoin qu'on les amène pas après pas, comme le Christ a fait, qu'on les amène à comprendre nos croyances théologiques profondes, nos convictions confessionnelles, notre confession de foi. Mais si vous allez immédiatement à la conviction, sans faire ce cheminement-là, en acceptant que la personne en face de vous, que ce soit dans cette thématique pro-vie ou dans n'importe quelle autre, que la personne en face de vous, elle a des raisons de penser comme ça, eh bien, il n'y aura jamais de dialogue. Et nous devons, en tant que Fédération Baptiste, apprendre. Tous les chrétiens devraient le faire, mais nous encore plus, pour que notre fédération, pour que cette gloire de Dieu, que l'Esprit a déposé dans notre fédération, cette capacité à vivre nos différences et en tirer quelque chose pour le monde, pour que cela vive, il faut que nous apprenions à faire cette différence. Conviction confessionnelle, impératifs moraux, c'est pas la même chose. Et puis, valeur, et ensuite, éthique de vie. Tant que nous ne faisons pas cette différenciation dans nos vies, nous restons des hommes et des femmes durs, incapables de vivre une fraternité réelle avec des hommes et des femmes qui explicitent, qui décortiquent leurs convictions fondamentales autrement que nous. Voilà l'enjeu que, d'après moi, le Saint-Esprit a déposé sur la Fédération Baptiste. C'est tellement difficile de vivre cela. C'est tellement glorieux, ce projet de Dieu pour nous. Alors, il y aura encore plein de choses différentes à dire sur la Fédération Baptiste, son système de gouvernance particulier, mais ce sera pour une autre fois. Je vais m'arrêter là et je vais prier pour vous, si vous le voulez bien. Je vais prier pour nous, puisque vous et moi faisons partie de la même Église, du même corps, et sommes porteurs du même projet. Père très saint, nous te sommes tellement reconnaissants pour ce projet que tu as de rassembler autour de ton trône de gloire des hommes de toute nation, de tout peuple, de toute tribu et de toute langue. Tu n'as pas peur des différences, Seigneur. Tu es au-delà de toutes ces choses. Et nous, tellement souvent, nous nous battons pour des choses que nous estimons essentielles et nous ne voyons pas. Nous ne sommes pas capables de saisir que devant toi, elles sont secondaires. Alors, Seigneur, nous nous battons, nous nous blessons les uns les autres. Et cela a lieu dans des familles humaines et dans des familles spirituelles, entre deux églises, avec des conceptions différentes. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te remets cette communauté, Père, et je te prie pour qu'avec toute sa richesse, avec tout ce qu'elle est, avec tout ce que tu lui as donné localement, elle puisse aller plus loin avec toi. Elle puisse entrer dans des projets nouveaux que tu prépares pour elle, mais aussi prendre part pleinement à la réalité de la fédération, à ce projet divin qui consiste à se reconnaître différent, tout simplement. Saint-Esprit, je te prie que tu ouvres les yeux de mes frères et sœurs sur cette réalité fédérative, ce projet qui vient de ton cœur. Et je te prie que tu permettes à cette communauté de vivre pleinement ce qu'elle est, de l'exprimer dans la fédération, tout en respectant les frères et sœurs qui sont différents. Seigneur, fais-nous voir cette gloire d'une fédération capable de vivre ensemble, de construire ensemble des projets pour ton royaume et pour ta gloire, dans un monde qui s'uniformise de plus en plus. Saint-Esprit, tu es le Dieu du kaléidoscope. Tu es le Dieu de la diversité dans la nature. Nous voulons vraiment te prier pour que tu bénisses cette Église d'une manière locale et que tu bénisses notre fédération dans tout ce qu'elle est au niveau de la France. Nous voulons ensemble te remettre notre pays qui a tellement besoin de ta grâce, que nous puissions montrer aux autorités, que nous puissions montrer à la société qu'il est possible de marcher ensemble d'un même pas, comme l'apôtre Paul le dit en Philippiens, que nous pouvons marcher ensemble d'un même pas, même si nous ne sommes pas tous d'accord sur tous les points. Saint-Esprit, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir cette gloire. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Et nous te bénissons, parce que nous savons que tout ce qui est sur ton cœur advient sur la terre lorsque tu trouves des hommes et des femmes de bonne volonté. Viens, Saint-Esprit, et bénis mes frères et sœurs ici, dans le nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir écoutée.